recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Ils ont exactement la même vision binoculaire que nous, mais seulement le problème c'est qu'ils balaye du regard, il ne vous fixe pas, parce que la fixation visuelle, c'est de la menace, hein, sans mouvement, hein, sans même vocalisation, c'est de l'agression.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage, là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Même dans les périodes, dont la nôtre probablement, où l'accumulation des préoccupations immédiates et des incertitudes lancinantes tendent à détourner l'attention des anticipations vers le long terme, même dans ces périodes, il advient que font surface de brusques avertissements qui contraignent à s'arracher à l'actualité. Ils ramènent soudain les humains vers une responsabilité spécifique, celle de leur peser sur la suite des temps. L'angoisse écologique a commencé de nous y habituer, mais des nouvelles brutales très concrètes l'aiguillonnent spécialement. J'y songeais, comme beaucoup d'entre vous, en apprenant à la lecture d'une étude toute récente que nos proches cousins, les singes, étaient menacés de disparaître à petit feu, à hauteur de 60% des 16 grandes familles entre lesquelles ils se subdivisent, et cela dans le délai de 25 à 50 ans. C'est l'effet surtout de la destruction progressive de l'habitat naturel des primates. Par quoi vient le désir de s'interroger sur les permanences et les ruptures qui peuvent marquer la chronique des relations, la chronique du fragile dialogue entre les hommes et les singes. Et j'ai la chance, pour ce faire, d'avoir devant moi ce matin Éric Baratet, professeur à l'Université de Lyon, qui est un spécialiste reconnu de l'histoire des animaux, et dont les recherches savantes ont l'originalité de se placer non pas de notre point de vue d'humain, mais principalement de celui des bêtes que l'on appelle sauvages. Il démontre, vous allez le constater, que ce renversement de perspective, qui pourrait paraître illusoire, est en réalité tout à fait possible et fécond pour la réflexion et pour l'action.
La forêt s'éteint sous le ciel chaud. Le lion s'endort tout comme les oiseaux. Seul un petit singe aux yeux malins se balance en regardant au loin. Oh, qu'il est doux de rêver. Oh, qu'il est bon d'exister. Mais soudain arrive un homme blanc, armé d'un fusil, évidemment. À sa vue, le petit singe a frémi. Heureusement, le chasseur s'est endormi. Oh, qu'il a l'air fatigué. Oh, qu'il est bon de ronfler. Le singe savait comme tous les enfants l'aventure de Jimbo, l'éléphant. Dans un bond, il s'empare du fusil et vise tranquillement l'homme endormi. Oh, qu'il est doux s'amuser. prend des airs triomphants. Il est aussi fort que l'homme blanc. Chasseur qui chassait près de l'équateur, méfiez-vous, il y a des imitateurs. Fallait pas leur montrer. Oh, ça vous tombe sur le nez.
Éric Baratet, bonjour.
Bonjour.
Vous ne serez pas surpris si je vous dis que j'ai choisi cette chanson de Lisette Jeanbel, une chanson de 1950, Le Petit Singe, parce qu'elle nous conduit tout droit à cette conception qui est la vôtre, c'est-à-dire celle de la possibilité de regarder non pas la bête par l'homme, mais l'homme par la bête. Et là, très concrètement, le singe se venge et tire sur le méchant homme blanc.
Oui, alors c'est... Cette idée de regarder la, du côté de l'animal permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe avec les hommes. Parce que à toujours regarder le côté humain, on fait comme s'il n'y avait qu'un pôle, qu'un acteur, l'homme, et comme si la relation entre les hommes et les animaux n'avait qu'un sens, de l'homme vers l'animal.
En se saisissant du fusil, le petit singe signifie cela.
Exactement, il est aussi acteur et il renverse même le rôle dans ce cas-là. Et essayer de voir les deux côtés, notamment essayer de voir du côté de l'animal, ça permet d'avoir une histoire ou une vision des choses beaucoup plus complexe. Et c'est toujours plus intéressant quand les choses sont compliquées.
Oui, j'observe qu'il existe un article d'un philosophe américain, n'est-ce pas, Nagel. Nagel qui a posé la question suivante, qu'est-ce que cela fait d'être une chauve-souris ? Vous pouvez nous dire ce que cela fait être une chauve-souris en attendant que nous rejoignions les sages ?
Alors, à l'époque, lorsqu'il publie cet article, c'est pour répondre qu'on ne peut pas savoir ce que cela fait d'être une chauve-souris. Parce qu'il pense que les différences de psychisme sont beaucoup trop éloignées, beaucoup trop importantes pour essayer même d'inventer ou d'essayer de s'approcher de tout ça. Et puis, il a changé d'avis. Dans les années 80, il a publié un livre qui s'appelle « Le point de vue de nulle part », qui est traduit en français d'ailleurs, où il dit qu'au contraire, il faut essayer de tendre vers les autres mondes pour mieux connaître le monde et le monde dans toute sa complexité. Alors évidemment, on ne saura jamais ce que ça fait qu'être une chauve-souris. Nous ne sommes pas des chauves-souris. Nous ne sommes que des hommes.
J'espère que votre prochain livre, Éric Baratet, sera consacré aux chauves-souris. Mais pour l'instant, restons-en, si vous voulez bien, le champ est immense, dans celui des singes, des simiens, des primates. Il y a une grande variété de termes. Quelle est leur histoire ?
Alors, on parle très longuement de singes, de magots. En réalité, de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, on n'arrive pas à faire de grandes distinctions entre les différentes espèces de singes.
Alors qu'il y en a 16.
Il y en a 16. Et par exemple, on a beaucoup de mal à différencier chimpanzés, orang-outans. Alors qu'ils ne sont pas du tout de la même origine. Le chimpanzé est africain, l'orang-outan vient d'Asie du Sud-Est. Et malgré cela, on les confond beaucoup, ou on ne sait pas s'il y a une véritable différence entre eux. Et il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, même le milieu du XIXe siècle, pour qu'on ait une véritable distinction anatomique officielle entre chimpanzés, gorilles, orang-outans. Et même, il faut attendre les années 20, pour que l'on se rende compte que parmi ce qu'on croyait être les chimpanzés, il y a une quatrième espèce de grand singe qui est le bonobo.
Qui est particulièrement menacé d'ailleurs, nous dit-on.
Et qui est encore plus menacé que les autres, parce qu'ils sont peu nombreux, ils étaient peu nombreux numériquement. Et le bonobo, et même encore maintenant, des spécialistes de primatologie comme Franz De Waal, par exemple, il est très difficile de distinguer entre un chimpanzé et un bonobo. Il faut avoir les photos, les regarder de près, parce que la différence vient dans la grandeur des oreilles, dans la couleur de la face. Lorsqu'ils sont petits, le chimpanzé a une face blanche, alors que le bonobo a tout de suite une face noire. Le chimpanzé noircit avec l'âge, petit à petit.
Ceux qui sont le plus menacés, ce sont les orang-outans, notamment de Sumatra, les bonobos, vous le disiez,
les chimpanzés
et les gorilles.
Et les gorilles, parce que les gorilles étaient très peu nombreux, et évidemment, à la fois la destruction de leur habitat, mais aussi un grand développement du braconnage. Il y a eu un changement sous l'influence occidentale au XXe siècle. Les populations indigènes, qui étaient relativement respectueuses, même assez respectueuse de ces grands singes, notamment des gorilles ou des orang-outans, parce qu'on ne savait pas trop si ça n'était pas des hommes aussi. Eh bien, ce respect des populations locales a en partie disparu et il y a eu un grand développement du braconnage après la chasse occidentale, grand développement du braconnage au XXe siècle et notamment les populations locales, par exemple en Afrique, se sont mis à beaucoup consommer de viande de chimpanzés ou de bonobos, alors qu'il y avait un relatif respect auparavant et qui permettait de mieux préserver ces espèces.
L'effet néfaste de cela s'ajoute à la diminution des espaces qui sont laissés à la vie de ces singes.
Exactement. Or, ces singes ont besoin d'espace. On se rend compte maintenant qu'il y a une culture des grands singes. Hein, c'est un terme qui est apparu en 1999. On a parlé de culture des primates. Et pour que cette culture s'exprime, il faut de la place parce que il y a une sociabilité, il y a une division en groupes. Les chimpanzés vivent dans des groupes très différents, avec des différences de culture d'un groupe à l'autre. Et on commence simplement à faire attention à ce genre de choses. Et on se rend compte maintenant que ça peut poser problème lorsqu'on introduit un chimpanzé dans un zoo, dans un groupe de chimpanzés, sans se demander s'ils sont de la même culture. On se rend compte maintenant que ça peut être très stressant pour l'animal qui est intégré dans un groupe qui n'est pas de sa culture.
On peut commencer de parler de déportation, de population de singes qui en souffrent apparemment autant que les humains dans telle situation.
Exactement, parce que ce sont des critères auxquels on n'avait absolument pas prêté attention. Jusqu'à présent. Alors, on a prêté attention au XXe siècle aux critères génétiques, aux problèmes de consanguinité. On a essayé de, par exemple, dans les jardins zoologiques, d'éviter au maximum les croisements proches. Et on commence à comprendre maintenant qu'il y a un autre problème qui est le problème culturel, auquel on n'avait absolument pas fait attention.
Culturel, c'est-à-dire ?
Culturel, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que chez les gorilles, chez les orang-outans, chez les chimpanzés, et on est en train de le découvrir pour bien d'autres espèces, hein, les dauphins, les baleines, etc., il y a des pratiques culturelles, c'est-à-dire par exemple chez les chimpanzés, d'un groupe à l'autre, on n'utilise pas les mêmes outils ou on ne les utilise pas de la même manière. Les sociabilités ne sont pas structurées de la même manière. Et puis, il y a des rites aussi qui sont différents. Par exemple, des rites de salutation qui ne sont pas les mêmes d'un groupe à l'autre. Et puis, il y a toute la situation des inventions. Hein, on a compris depuis peu que les animaux, les grands singes en particulier, mais il y a d'autres espèces animales, qui ont des inventions technologiques. L'exemple le plus célèbre, c'est celui des macaques japonais, hein, notamment de cette jeune macaque japonaise dont on s'est aperçu en 1953, qu'elle apprend, elle découvre qu'en mettant sa patate douce dans de l'eau salée, eh bien, le goût est meilleur. Et donc, elle va apprendre à sa mère cette pratique culinaire, on peut dire, et cette pratique culinaire va se diffuser ensuite selon des règles sociales dans le groupe. Et maintenant, on a des groupes de macaques japonais qui trempent leurs patates douces dans l'eau salée, d'autres qui ne le font pas. Autrement dit, c'est voilà le genre de choses qui fait que des cultures se créent d'un groupe animal à l'autre. Et c'est évidemment ces cultures, on n'y avait pas pensé jusqu'à présent.
Donc votre propre gourmandise, monsieur le professeur Baratet, peut vous aider à vous placer du point de vue des singes qui nous occupent aujourd'hui dans cette émission. Revenons un peu en arrière, même loin en arrière, pour dire un mot de l'Antiquité. Car il a fallu du temps pour que les humains prennent des singes une idée qui soit vraiment aussi riche que cette population le mérite. En même temps, ils existent. On voit dans Ésope, par exemple, dans les fables d'Ésope, que le singe y a une place importante. Souvent, d'ailleurs, méprisé, souvent ravalé. Les choses ont beaucoup changé d'un siècle à l'autre. Je vois cette fable d'Ésope qui s'appelle « Le renard et le singe élu roi ». Je vous en cite l'essentiel. « Le singe, ayant dansé dans une assemblée des bêtes et gagné leur faveur, fut élu roi par elle. Le renard en fut jaloux et ayant vu un morceau de viande dans un lacet, il y mena le singe en lui disant qu'il avait trouvé un trésor, mais qu'au lieu d'en user lui-même, il le lui avait gardé comme étant un apanage de la royauté. » Et il l'engagea à le prendre. Le singe s'en approcha étourdiment et fut pris au lacet. Comme il accusait le renard de lui avoir tendu un piège, celui-ci répliqua Ô singe, sot comme tu es, tu veux régner sur les bêtes. Revanche du renard sur le singe, il est donc assez mal vu en fait dans l'Antiquité.
Dans l'Antiquité grecque, parce qu'il y a relativement peu de singes en Grèce, et donc ça laisse un peu la place à pas mal d'inventions. Et c'est vrai que le regard des Grecs sur les singes va peser très lourd sur le regard occidental, quasiment jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et chez les Grecs, on a un peu deux approches. Il y a l'approche relativement favorable qu'on trouve chez Aristote, c'est-à-dire que l'idée que le singe a une grande proximité avec l'homme et qu'il doit donc avoir des capacités intéressantes. Et puis, il y a une approche plus, entre guillemets, négative qu'on trouve chez Platon, par exemple. Platon trouve que le singe est un animal laid parce qu'il est noir. Il y a l'opposition du blanc et du noir. Le noir, c'est l'image de la dégradation. Et c'est un animal laid. Et c'est un animal qui imite, qui ne fait que singer l'homme, mais qui n'a pas d'intelligence. Ça va aussi, on trouve ça chez Ésope, ça va aussi, le singe va symboliser toutes les vanités, tous les défauts de l'humanité.
Et cela se prolonge tard, puisque au XVIIe siècle encore, dans La Fontaine, je vous ai choisi Éric Baratet, une fable de La Fontaine, on trouve encore cette conception du singe sot et méprisé. Ésope est encore présent. Nous allons écouter François Perrier, qui lit Le singe et le dauphin de La Fontaine. C'est une fable qui appartient au livre 4 de 1668.
Le singe et le dauphin. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer, tout voyageur menait avec eux en voyage singe et chien de bateleur. Un navire, en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eût péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit, il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa devoir son salut. Un dauphin le prit pour un homme et sur son dos le fit asseoir, si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord quand par hasard il lui demande « « Êtes-vous d'Athènes, la grande ?»« Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge-mère. » Le dauphin dit « Bien grand merci. » Et le Pirée à part aussi, à l'honneur de votre présence, vous le voyez souvent, je pense, tous les jours. Il est mon ami, c'est une vieille connaissance. » Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup qui prendraient Vaugirard pour Rome et qui, caquetant au plus de rue, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des eaux rien qu'une bête, il l'y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver.
Prendre le Pirée pour un homme, l'expression a fait florès et a duré comme un symbole de sottise ou de prétention. Il faut une note en bas de page peut-être. On eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Il s'agit d'Arion de Métimne, qui est un poète grec du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui a été sauvé de la noyade par un dauphin qui avait été attiré par son chant. Pour remercier ce dauphin, d'ailleurs on a donné le nom à une constellation, on lui a donné le nom de dauphin. Le magot, c'est le nom à l'époque le plus fréquent pour un singe. Le singe est replongé dans l'eau, sa sottise est punie, et le dauphin va trouver quelque homme afin de le sauver. On est là toujours dans l'opposition entre l'homme et le singe. Ce n'est pas le mimétisme qui domine, mais plutôt l'impression de la différence. C'est le temps de Descartes aussi sur les animaux-machines.
Oui, on est aussi là tout à fait dans le sillage de Platon, c'est-à-dire que le singe est vu comme un vaniteux, un vantard. Il fait des choses humaines, mais en réalité, il les copie. Et il n'a pas l'intelligence en lui de ces choses. Donc, de la même manière que là, dans la fable, il dit qu'il sait quelque chose, en fait, il ne fait qu'inventer ou répéter. Et donc, le singe, c'est le singe de l'homme. C'est le clown de l'homme. C'est celui qui fait croire, mais qui n'est pas ce qu'il est.
Il profite de la ressemblance dans la fable et le dauphin s'y trompe un moment, puisqu'il le prend pour un homme.
Oui, c'est exactement ça. On retrouve ça aussi dans les populations locales, hein, par exemple à Bornéo, avec l'orang-outan. Il y a aussi cette espèce de dialogue entre est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est pas un homme. Les populations locales appellent l'orang-outan l'homme des bois. Et donc ça montre bien toute cette incertitude sur ce qu'est le singe au sens large du terme.
Il y a aussi la tradition différente de l'angoisse en face de cette ressemblance. Je veux dire que le singe peut apparaître comme maléfique, comme diabolique. Ça se voit déjà chez les Hébreux et peut-être plus encore au Moyen-Âge.
Oui, ça commence dans la Bible, on voit quelques versets. Et alors au Moyen-Âge, c'est vraiment l'idée que le singe, c'est le singe de l'homme, comme le démon est le singe de Dieu. On fait un parallèle entre les deux, et donc le singe devient le représentant, un des représentants du démon, une figure du démon, parce qu'il est noir, justement, et le démon est noir, il évolue, le démon évolue, il imite, il se moque, c'est exactement le portrait. Et ensuite, à partir du XIIIe siècle, le singe, au sens large du terme, parce qu'on les différencie mal, devient aussi le symbole des péchés, notamment des péchés capitaux. Et donc on a vraiment cette idée du singe maléfique, et ça va rester très très longtemps, au moins jusqu'au XVIIe siècle.
Le singe n'a pas le monopole de cette situation. D'autres animaux au Moyen-Âge paraissent incarner le démon.
Bien sûr, le bouc par exemple, le chat noir évidemment, ils sont nombreux.
Et puis concomitamment, un certain nombre de savants, de chercheurs commencent à s'attacher à développer une enquête sur ces animaux encore assez mystérieux et lointains, mais qu'on se met à importer aussi dès lors qu'il y a des grandes explorations. C'est une habitude qui se prend sur les bateaux de ramener des singes de diverses natures, et on commence de les décrire, on commence de les peindre, de les dessiner.
Oui, alors ça c'est le grand bouleversement des grandes découvertes. Alors ça n'est pas que le singe, on ramène plein d'autres animaux, mais le singe est l'un des animaux favoris. Alors à la fois les grandes découvertes vont permettre de regarder sur place, d'observer sur place. C'est le cas de l'orang-outan. L'orang-outan, c'est l'animal qui est le mieux observé par les Hollandais. Ça commence fin 16e, début 17e siècle. Il y a toute une série d'observations sur place. Ça va aller jusqu'à la fin du 18e siècle. Et les Hollandais vont donner des portraits de plus en plus fidèles de ces orang-outans, tout en étant très perturbés par ce que leur disent les populations. Notamment, les populations leur disent, on appelle l'orang-outan l'homme des bois, mais les populations leur disent aussi que ces orang-outans, les mâles orang-outans, enlèvent régulièrement des femmes et s'accouplent avec elles. Et donc là, ça renforce sur le côté totalement mystérieux et bizarre de ces hommes, enfin de ces singes plutôt, bon, l'absus est révélateur, de ces singes dont on ne sait pas vraiment où est la limite. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des singes? Et donc, même les Européens, même en voyant les animaux, ont du mal à faire un état, on pourrait dire, objectif de ces animaux.
C'est le thème de l'hybridation.
C'est le thème de l'hybridation, et alors qui est très important au XVIe siècle, parce que justement on aime beaucoup penser l'hybridité, la monstruosité, parce qu'on croit que la nature a une part d'autonomie par rapport à Dieu, contrairement à ce qu'on pensait au Moyen-Âge, et donc la nature s'amuse. Elle s'embête, la nature, donc elle s'amuse, donc elle invente. Et elle invente des êtres hybrides, elle invente des monstres, et pour beaucoup de contemporains, le singe fait partie de cette hybridité, fait partie de cette monstruosité. Alors c'est pas une idée de l'époque, elle date déjà de l'époque romaine. Pline l'Ancien le dit dans son Histoire naturelle, il fait toute une liste des singes, souvent une liste totalement fantasmée, imaginaire, mais qui a beaucoup d'écho jusqu'au XVIe, XVIIe siècle.
Il y a constamment dans ces temps anciens une double tentation, celle de marquer la différence complète, Descartes, entre l'animal et l'homme, et en même temps de se laisser griser par l'idée de rencontres possibles, comme vous le disiez, de fécondation, d'hybridation.
Oui, on vit, on oscille sur ce double regard depuis l'Antiquité. Hein, le regard favorable, la proximité, essayer d'avoir un contact, c'est plutôt Aristote. Le regard défavorable, c'est Platon, qui est ensuite repris par des philosophes comme Descartes, etc. Ou au contraire, là, on aura plutôt tendance à rejeter le singe comme quelque chose de pas sérieux, alors que les premiers auront tendance, au contraire, à se demander s'il n'y a pas là une proximité intéressante.
Et puis il y a la curiosité purement scientifique, parce qu'il y a concomitamment le prisme médical, l'utilisation par des chercheurs de la proximité ou de la distance. Nous parlons du dialogue entre l'homme et le singe, entre leur corps, et l'anatomie commence à fasciner l'anatomie des singes, on la rapproche de celle de l'homme.
Oui, c'est le grand travail du XVIIe siècle. Ça commence avec Tulpius, qui fait la première dissection d'un chimpanzé en 1641. Et ensuite, l'autre étape, c'est le travail de Tyson en 1699.
Il travaille sur des orangs-outans.
Tyson dissèque aussi un chimpanzé. Et la grande nouveauté de Tyson, c'est qu'il a l'idée de mettre en parallèle sur deux pages parallèles de son étude, de sa publication, un squelette de chimpanzé et un squelette d'homme. Et on tient ce travail de Tyson pour la naissance de l'anatomie comparée dans le sens actuel, moderne de notre époque. À l'époque, ça n'est pas tellement vu comme la naissance de l'anatomie comparée, c'est plus vu comme une espèce de confusion supplémentaire, hein, à quel point ce singe est proche de l'homme. Nous, on sait que ce sont deux espèces différentes, mais les gens de l'époque sont encore très incertain. Et la troisième grande étape, c'est Linné en 1758, lorsqu'il publie la 10e édition du Système de la Nature, où il intègre les animaux. Il va mettre dans le même groupe des primates, c'est un mot qu'il invente, primates ça veut dire les premiers, les supérieurs. Il va mettre l'homme, ou l'homo sapiens, c'est aussi Linné qui donne ce nom d'homo sapiens. Et puis l'orang-outan, qu'il appelle homo silvestris, et puis l'homme des bois, hein, des gens de Bornéo, et le chimpanzé. Mais en ayant encore beaucoup de mal à différencier chimpanzé et orang-outan, la différenciation ne viendra qu'à la fin 18e et au milieu du 19e siècle.
Entre les singes et les humains, quelle différence, quelle ressemblance? C'est une inquiétude, une préoccupation, à la fois dans les fantasmes et dans la science, qui parcourt toute cette histoire que nous évoquons. Encore en 1817, on voit Jean-Baptiste Say, dans son petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société, écrire cette phrase: « On dirait que le singe n'a été fait que pour humilier l'homme et pour lui rappeler qu'entre lui et les animaux, il n'y a que des nuances ».
Oui, exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de comparaison entre les singes et l'homme irrigue toute la culture occidentale de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Encore de nos jours, quand vous lisez des articles de primatologues occidentaux, il y a toujours derrière leur article, il y a toujours derrière l'idée de la différence entre l'homme et l'animal. Même chez les éthologues les plus favorables aux chimpanzés, comme Franz De Waal, par exemple. Et il est très intéressant de voir que ça n'est pas du tout le cas chez les Japonais. Les Japonais qui ont inventé la primatologie de terrain dès la fin des années 40. Mais chez les Japonais, la question de la différence entre l'homme et l'animal ne se pose pas. Il y a une continuité des vivants. Et les Japonais sont beaucoup plus intéressés tout de suite par l'individualité. Hein, ce qui les intéresse, c'est pas le niveau de l'espèce, c'est le niveau individuel. Et ça vient évidemment de leur culture, de la culture shintoïste, de l'influence du bouddhisme, etc. Alors que nous, on vit encore actuellement sur cette pensée grecque, qu'on voit bien chez Platon, cette pensée grecque, on fait toujours de la Grèce le pays qui a inventé la démocratie, mais en réalité, la société grecque antique, c'est une société très inégalitaire, très hiérarchique. Hein, il y a les libres et les esclaves, la démocratie, elle n'est que pour certains. Il y a les femmes et les hommes, il y a les Grecs et les barbares, et il y a les hommes et les animaux.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je sens, Eric Baratek, que vous avez pour les Japonais, dans votre champ de curiosité, une dilection particulière, puisque vous intéressez beaucoup, vous aussi, aux biographies individuelles. Et cela rejoint d'ailleurs les relations que peuvent avoir les savants avec les singes dont ils s'occupent. Parfois, il naît entre eux une affection vraiment individuelle. Et c'est une donnée de notre XXe siècle, que se sont multipliées les vocations de savants qui sont allés sur place s'intéresser à la vie des animaux, des chimpanzés en particulier, dans le cas de Jane Goodall, qui est aujourd'hui une vieille dame très respectée, octogénaire, et qui a joué un rôle très important à cet égard. Écoutons un extrait de son livre « Les chimpanzés et moi », 21 février 1972, sur France Culture. Et je me réjouis d'avance que vous commentiez ce document.
Au fil des semaines, je découvris qu'en période ordinaire, je pouvais m'approcher plus facilement d'un groupe de chimpanzés lorsqu'il faisait froid et humide que par temps sec. Un jour, je marchais sans bruit dans la forêt en plein égouttement. Au-dessus de ma tête, la pluie arrosait les feuilles et de l'une à l'autre finissait par retomber sur le sol. L'odeur du bois pourri et de la végétation mouillée était oppressante. Sous mes mains, les troncs d'arbres étaient froids, glissants, vivants. J'aurais pu sentir l'eau ruisseler dans mes cheveux et couler dans mon cou. Mais je cherchais un groupe de chimpanzés que j'avais entendu avant le début de l'ondée. Lorsque j'entendis les pas résolus qui approchaient derrière moi, je m'étendis à plein ventre et je ne bougeais plus, car il arrivait souvent que les grands singes, s'ils m'apercevaient sur leur route de ravitaillement, se ravisaient et allaient s'alimenter ailleurs. Ce jour-là, les pas avancèrent puis s'arrêtèrent soudain. J'entendis un léger « ouh » appel d'un individu inquiet, un peu craintif. J'avais été repéré. Je demeurai immobile. Bientôt, les pas se rapprochèrent. Puis je compris qu'un chimpanzé se mettait à courir pour franchir quelques mètres et à cette course succéda un grand cri. Je vis soudain un gros mâle grimper à un arbre qui se trouvait tout près. Se déplaçant dans les branches au-dessus de ma tête, il se mit à crier en émettant des sons brefs, bruyants, aigus, avec sa bouche ouverte. Je regardai fixement sa face sombre et ses yeux bruns. Il commença à descendre et il ne s'arrêta que lorsqu'il fut à 3 mètres de moi. Je vis ses dents jaunes et à l'intérieur de sa bouche, le rose de sa langue. Il secoua une branche, m'arrosa de brindilles, puis il frappa le tronc et agita de nouvelles branches tout en continuant de hurler. Visiblement, il se laissait emporter par un accès de rage. Mais tout à coup, il sauta à terre et disparut. Ce fut alors que j'aperçus une femelle avec un tout petit bébé et un enfant plus âgé qui étaient tous trois assis sur un autre arbre et me contemplaient avec des yeux écarquillés. Ils se taisaient et ne bougeaient pas. J'entendis le vieux mâle remuer derrière moi, puis s'immobiliser. Il était si proche que je percevais son souffle. Tout cela avait l'air parfaitement irréel. Et puis j'entendis un aboiement puissant, un piétinement de feuilles, et je reçus un coup bien asséné sur la tête. Alors je dus bouger, je dus me mettre sur mon séant, je dus croire que l'irréel était bel et bien la réalité. Le mâle se tenait debout et me regardait. Un moment, je pensais qu'il allait charger. Mais non. Il fit demi-tour et s'éloigna, non sans s'arrêter plusieurs fois pour me dévisager. La femelle, le bébé et le jeune descendirent à leur tour de leur perchoir et le suivirent. Quelques instants plus tard, je me retrouvai seul. Mon cœur battait vite et fort, mais j'étais habité par un sentiment de triomphe. J'avais eu un vrai contact avec un chimpanzé sauvage. L'inverse serait peut-être plus exact.
Voilà, Éric Baratet, au cœur d'une relation quasi individuelle entre l'homme, le chercheur, la femme et l'animal.
Oui, et une relation qui inverse totalement les proportions que l'on avait eues, parce que jusqu'alors, on faisait venir les chimpanzés en Occident pour les regarder, pour les utiliser, pour les examiner. Là, c'est l'inverse. Le grand tournant, ce sont les Occidentaux qui vont sur place voir les chimpanzés et essayer finalement d'être avec les chimpanzés, voire de se faire chimpanzé.
Nous verrons la même chose tout à l'heure avec Diane Fossé pour les gorilles. Mais restons sur ces animaux tels que vus par Jane Goodall. On est là très désireux de vous suivre dans votre effort pour vous replacer de l'intérieur de la psychologie des animaux. Et je voudrais sans plus attendre que vous nous conduisiez vers un des singes qui vous a le plus intéressé dans le livre que vous venez de faire paraître, qui s'appelle Biographies animales. Il est paru il y a trois jours, donc il est vraiment aisément disponible. Biographies animales, vous faites un sort particulier à un singe qui s'appelle Consul. Je voudrais que vous nous en parliez parce que il est très représentatif de cette évolution et de votre effort pour partir de destins individuels d'animaux pour généraliser ensuite.
Alors Consul, ça a été un singe extrêmement célèbre à la fin du 19e siècle. Il a été capturé en Afrique, en Sierra Leone ou en Guinée actuelle. Il est resté 2 ans dans une famille européenne en Afrique qui a commencé à l'éduquer, à l'apprivoiser. Et puis il a été vendu au zoo de Manchester à la fin en 1893. Et le zoo de Manchester à l'époque, c'est un peu le Disneyland de l'époque. Hein. C'est un immense parc d'attractions où il y a aussi beaucoup d'animaux. Il y a un jardin zoologique et le zoo vient a juste fait construire une grande maison des singes toute neuve. Et on veut des singes attractifs, on veut des singes qui attirent le public, et Consul est fait pour ça. Il est acheté pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des documents de l'époque, des photographies, des textes, des témoignages, qui permettent, en croisant avec ce qu'on sait de la léthologie actuelle, de la primatologie actuelle, qui permettent de se demander qu'est-ce qui se passe du côté de Consul, qu'est-ce que ça fait pour lui d'arriver dans ce zoo, et quelle est sa vie, et comment il vit cette vie qu'on lui impose. On voit en fait qu'il y a un véritable dialogue entre les hommes et ce Consul, c'est-à-dire que Consul s'adapte, Consul participe, il est volontaire pour faire cela parce que c'est un moyen aussi pour lui d'améliorer sa condition. Hein, alors lorsqu'il arrive, il arrive pour prendre le thé. Hein, il arrive à l'heure du thé, on est en Angleterre, donc juste à 17h. Et dès qu'il arrive dans le jardin zoologique, on le met dans sa cage et on lui fait prendre le thé. Et ça, il connaît, il a appris en Afrique, ce sont les Européens qu'il possédait qui lui ont appris. Et on l'a fait venir pour ça. C'est ça qui doit attirer le public.
Il s'en rend compte, car c'est un cas où vous illustrez votre méthodologie, c'est-à-dire que vous nous placez à l'intérieur même de la psychologie du singe. On pourrait dire qu'il est difficile de vous contredire, mais on vous croit. Et en particulier, vous alternez le regard des hommes sur le singe et les réactions du singe que vous réduisez à vrai dire à une série de mots juxtaposés, mais vous nous convainquez.
Oui, parce que ce n'est pas de l'invention de ma part. Hein. Je m'appuie vraiment sur les travaux des primatologues actuels. Alors, il ne s'agit pas de plaquer totalement ce que disent les primatologues sur le Consul de l'époque, parce qu'il peut y avoir des différences d'un siècle à l'autre entre singes. Mais il s'agit quand même de croiser entre ce qu'on sait maintenant et les documents de l'époque pour essayer de comprendre. Et on voit bien à certains indices, hein, l'historien travaille avec des indices, on voit ce qui se passe chez ce singe. Et on peut inférer, on peut en déduire de ses gestes, on peut en déduire de ce qu'il pense ou de ce qu'il imagine. Hein, et on voit bien comment il contribue, il participe à cette mise en scène finalement théâtrale. Le public vient le voir, se précipite, le regarde manger. Hein, il mange 3 fois par jour en public. Et les gens viennent voir quoi ? Ils viennent voir finalement un singe qui va peut-être devenir un homme. Ça, c'est la grande nouveauté du 19e siècle. C'est l'effet de l'idée qui apparaît à la fin du 18e siècle que l'homme pourrait descendre du singe. C'est une idée développée par des philosophes, sans aucune preuve, qui est reprise par Lamarck, avec un peu plus de preuves, et puis surtout par Darwin et l'école de Darwin.
Une idée qui aujourd'hui nous paraît tout à fait controuvée.
Et maintenant, on ne descend pas des singes actuels, ce sont nos cousins. Hein. Mais à l'époque, c'est cette idée-là, et donc va se développer l'idée que finalement, ces singes, ce sont des hommes en puissance, ce sont nos ancêtres, mais en fait, on pourrait même les humaniser. Et il va y avoir une espèce de mot d'ordre en Occident, comme on veut occidentaliser les populations humaines, eh bien, il s'agirait d'humaniser les singes. Et Consul fait partie de cette volonté d'humaniser. C'est pour ça que lorsqu'un jour un ventriloque se met à parler anglais devant la cage de Consul, personne n'est choqué, tout le monde croit que c'est Consul qui se met à parler anglais. C'est normal, il est en train d'apprendre, il mange déjà à l'anglaise. Pourquoi ne se mettrait-il pas à parler anglais ?
Sur la couverture de votre livre, Biographie animale, Éric Baratet, vous avez choisi de mettre votre Consul habillé en gentleman anglais de l'époque. Cela est tout à fait métaphoriquement démonstratif de ce que vous nous dites.
Oui, alors par contre les habits, il n'appréciait pas beaucoup. Ça, on a des indices qui montrent qu'il essayait de les enlever, mais on tient absolument à l'habiller parce que justement il faut le civiliser. L'habit est la marque de la civilisation, donc il faut qu'il s'y fasse. Alors il est soit en gentleman, soit il a plus souvent un short, un costume rayé, il fume aussi la pipe, parce qu'il aime bien la pipe bourrée avec du thé. Et on voit bien que chez Consul, c'est un moyen aussi de prendre une indépendance ou une autonomie ou d'améliorer sa condition collection de singes en captivité, de singes en jardin zoologique. Alors évidemment, ça ne peut se faire que parce que c'est aussi un singe au caractère exceptionnel. Il faut penser à la plupart des singes qui arrivent en zoo et qui, eux, dépriment et meurent très rapidement. À Manchester, 80% des singes meurent dans la première année. Dans tous les jardins zoologiques, il y a une énorme mortalité. Et il n'y a que quelques animaux exceptionnels, comme Consul, qui arrivent finalement à s'adapter et à même à solliciter pour améliorer leurs conditions.
Décidément, ce qu'on apprécie, c'est que vous individualisez vos animaux, que vous ne les installez pas dans une cohorte vague et indifférenciée. C'est un peu d'ailleurs dans la même ligne que Kafka a écrit en 1917 une sorte de nouvelle qui est un rapport imaginaire pour une académie. Il propose un rapport sur le passé simien d'un singe, son passé simien. Un singe parle lui-même. Curieux texte, non ?
Oui, c'est un texte très anthropomorphisé puisque le singe parle une langue occidentale, il écrit aussi, il s'adresse à une académie savante humaine. Alors on a fait longtemps de ce texte, les littéraires l'ont vu comme une métaphore de l'humanité. Moi je pense que ça c'est autre chose, ou c'est en plus que cela, parce que lorsqu'on regarde ce texte, on a une description extrêmement proche de la condition des chimpanzés de cirque ou des chimpanzés de spectacle, en Occident, fin 19e, début 20e, notamment, par exemple, le consul de Manchester, mais il y a eu aussi un consul à Paris, aux Folies Bergères, en 1903, qui fumait le cigare, qui faisait du tricycle, etc. Et ce que raconte Kafka dans ce texte, c'est tout à fait la vie de ces chimpanzés consuls.
Il dit qu'il n'a pas été séduit, dit le singe de Kafka, par l'idée d'imiter les hommes. Propos intéressant, qui refuse l'idée de mimétisme qui domine beaucoup l'histoire de ce dialogue entre l'homme et le singe que nous traitons ce matin. Il dit « Je n'étais pas séduit par l'idée d'imiter les hommes, j'imitais parce que je cherchais une issue et non pas pour quelque autre raison. »
C'est exactement ça. On le voit très bien chez Consul que s'humaniser, c'est un moyen d'améliorer sa condition, c'est un moyen de sortir d'une condition qui est lamentable dans les conditions de l'époque. Hein. Et on voit bien que c'est, il y a un trajet individuel, il y a une volonté de sortir, et puis c'est vraiment vécu par l'animal. La manière, par exemple, dont Consul va se comporter avec les autres animaux. Par exemple, il va apprendre à lancer des cacahuètes aux autres singes, ou il va nourrir l'hippopotame, les ours, en ayant peur. Et puis, petit à petit, il se rend compte que finalement, les autres animaux ont peur de lui, donc il devient un peu le tyran des autres. Il y a là quelque chose, un parcours individuel tout à fait intéressant. Et on voit même chez Consul ce qu'on va découvrir chez Lucie un siècle plus tard, c'est-à-dire le sentiment qu'il est un homme. Consul regarde très souvent lorsqu'il est à l'hôtel du jardin zoologique, hein, puisqu'il y a un hôtel comme il y a des hôtels de nos jours à Disneyland pour accueillir le public, c'est déjà le cas à l'époque.
Concordance des temps.
Et donc à l'hôtel, il feuillette des magazines et il regarde des images d'hommes, des images de femmes. Il est très attiré par les femmes. Et un jour, il voit une image de singe et il saute dessus. Il saute dessus parce que il ne se croit pas singe. Et alors ça, on voit très bien qu'il le pense ainsi. Pourquoi ? Parce que un siècle plus tard, Lucie Temerlin, à qui on a appris le langage des signes, à partir de 1963, Lucie Temerlin est ramenée en Afrique en 1977.
Ce n'est pas la Lucie, il ne faut pas confondre avec la Lucie d'Yves Coppens.
C'est pas la Lucie d'Yves Coppens.
Qui est notre ancêtre.
Et cette Lucie Temerlin, elle fait comprendre par le langage des signes qu'elle ne veut pas rejoindre les chimpanzés. Elle se considère comme un homme. Et on le voit très bien aussi chez Consul. Alors, ce sont des cas exceptionnels, mais tout de même, c'est évidemment, c'est vertigineux comme tout ce qu'il y a en réflexion philosophique derrière.
C'est là qu'on en arrive à la question fascinante du langage. Est-ce que on peut s'exprimer? Comment s'expriment les singes entre eux? Et est-ce qu'on peut leur apprendre, vous le disiez, le langage des signes?
Oui, alors les singes s'expriment entre eux, il y a une communication, il y a un langage. Maintenant, les éthologues actuels, les plus hardis, n'hésitent pas à parler de langage des singes. Simplement, en donnant au terme de langage une définition qui ne soit plus anthropocentrée. Il y a beaucoup de choses que nous avons totalement anthropocentrées, c'est-à-dire que langage, quand on regarde la définition qu'on donne au mot langage, c'est évidemment langage humain. mais on peut donner une définition beaucoup plus large, exactement comme le terme d'intelligence.
Pour vous, l'anthropocentrisme, c'est vraiment l'ennemi constant, majeur.
Ben, l'anthropocentrisme a fait beaucoup pour ne pas comprendre les animaux. Et d'ailleurs, c'est le but, en fait. Hein. C'est évidemment d'insister sur la différence avec les animaux et de pouvoir, en partie, les utiliser, les exploiter. Et donc, il y a un langage des singes. Et en plus, on sait, par les cris, par les gestes, par les mimiques faciales, et puis on peut apprendre à des chimpanzés ou à des bonobos des formes d'autres langages. Il y a le langage donc des souris muets qui a été appris à Lucie ou à Washo.
Ça marche?
Et ça marche très bien. Et ces singes inventent des mots, décrivent ce qu'ils voient. Et pour décrire ce qu'ils voient, ben, ils inventent des mots, ils font des associations, des termes avec deux mots qu'ils ont appris pour définir, par exemple, tel animal, telle situation du temps, etc. Et il y a des singes aussi qui savent s'exprimer par des symboles géométriques, hein, que l'on leur passe, par exemple, sur ordinateur. Et donc, ils savent qu'il faut taper sur telle ou telle touche pour demander telle ou telle chose. Hein, cette puissance intellectuelle des singes est extrême, et notamment des grands singes, est extrêmement forte. Hein, vous savez, maintenant, dans les zoos américains, là où il y a des orang-outans ou des gorilles, certains zoos, le soir, donnent à leurs grands singes des iPads, hein, des tablettes. Alors, on ne fait pas ça devant le public parce que le public veut voir des singes tels qu'ils sont en nature, hein. C'est le grand mot d'ordre des jardins zoologiques depuis une cinquantaine d'années. Venez voir les singes chez nous tels qu'ils sont dans la nature. Donc on peut pas leur donner des iPads. Mais le soir, les grands singes s'embêtent et donc on leur donne des iPads et ils sont très forts en logiciel de dessin, en logiciel de jeu. Donc, attendez-vous un jour à recevoir un mail ou un SMS d'un orang-outan américain.
Nous nous y préparons dans le cadre de cette émission.
Exactement.
Éric Baratet. On est loin, effectivement, des ménageries du 19e siècle où on les montrait dans un état souvent de solitude et de malheur, dont vous faites souvent, avec chagrin, l'interprète rétrospectivement. Les choses ont déjà évolué lorsque on parle du cirque Bouglione, très fameux dans la seconde moitié du XXe siècle. Écoutez Serge, qui est historien du cirque et qui parle en direct du zoo de Rotterdam le 4 septembre 1955. Et vous nous direz si ce reportage vous apparaît marqué de désuétude ou s'il est finalement assez proche des comportements d'aujourd'hui.
Nous voilà devant les gorilles. On a l'impression de monstres noirs aux faces de pirates des montagnes, de vieux charbonniers à la peau presque bleue, imposants, à la rude musculature, de véritables Hercules de la forêt. Mais ces géants connaissent aussi la tendresse, puisque dans une autre cage de verre, un gorillon fait des culbutes et exhibe ses dents pour un sourire. Nous allons vous le montrer, déclare mon guide. J'avoue que c'est bien la première fois que je vais être face à face avec un nourrisson de cette espèce. Et voici le gorillon qui arrive, tenu entre les bras de son gardien, comme un ballon de caoutchouc noir. Ce gorillon ne paraît pas du tout apeuré par la présence des hommes, bien au contraire. Mais il a tout d'un ramoneur et sur sa face, d'un bleu foncé, fort luisante, surgissent deux yeux étranges, des yeux de vagabond éternel. Il est très rare que des gorilles naissent en captivité. Celui-ci, ayant quelques mois, est déjà vigoureux et s'accroche à son soigneur exactement comme un enfant. Il a les cheveux en brosse, à la mode d'un joueur de rugby, et de grandes rides sous les yeux. Ses parents viennent des montagnes de Kivu, où ils ont été capturés dans les froides forêts africaines, où rôdent les panthères, où les gorilles vivent en troupe sans cesse en errance. En somme, des bohémiens de jungle. Le gorillon a vu le jour à Rotterdam, à l'embouchure du Rhin et de la Meuse, face à ses voiliers d'où son père et sa mère débarquèrent, prisonniers des hommes. Et le gentil gorillon tente une monote, secoue ses lèvres, roule d'énormes yeux montrant son plaisir de vivre. Mais il plane autour de lui des forces inconnues, obscures, comme un nouvel appel de la forêt où ses ancêtres vêturent libres.
Cette archive n'est pas libre d'anthropomorphisme, là encore, n'est-ce pas, Éric Baratet ?
Non, mais elle est très significative d'une nouvelle manière de voir les animaux dans les jardins zoologiques, qui est encore la nôtre. Elle se met en place dans la seconde moitié du XXe siècle. Auparavant, vous l'avez dit, les singes sont souvent seuls, en cage, hein, parce qu'on considère que ce qui est intéressant, c'est simplement leur anatomie ou leur morphologie. Donc, lorsqu'on n'a qu'un individu, ça suffit. Et on va découvrir au XXe siècle l'importance d'avoir des animaux en couple ou en groupe, et l'importance aussi de la reproduction. puisqu'au même moment, le nombre d'animaux commence à se réduire au XXe siècle. On prend conscience de cette diminution, de cette perdition du monde animal. Et là, on a justement, c'est le moment où on commence à s'intéresser, au contraire, aux petits, à la vie sociale des petits avec leur mère, et ça devient extrêmement attractif, évidemment, pour le public. Le public se précipite pour voir les bébés. Et l'autre nouveauté là de 1955, c'est qu'on fait disparaître les grilles, et le journaliste parle de vitres. Et évidemment, la disparition du grillage des barreaux permet au moins, dans un premier temps, de faire disparaître le sentiment de prison, qui est très fort dans le public à partir de la fin du 19e siècle. Et là, on a le sentiment, au contraire, le public a le sentiment qu'il peut être au plus proche de ces animaux. Il n'y a plus qu'un ver qui les sépare, et il y a cette volonté d'être au contact, d'aller vers les animaux pour savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils font.
Aller vers les animaux, c'est ce que pratiquent les primatologues, les savants de plus en plus, non pas dans les zoos, mais sur place, dans leur environnement naturel, avec l'impression qu'ils ont à la fois la responsabilité de mieux comprendre ce que sont les autres et de protéger cet environnement pour éviter la disparition tragique dont nous parlions en commençant cette émission tout à l'heure. Il y a un personnage qu'avant que nous nous quittions, Éric Baratet, une personnalité qu'il faut que nous fassions surgir, c'est, je l'annonçais tout à l'heure, c'est Diane Fossé qui a consacré sa vie à la défense et à l'illustration des gorilles, qui a d'ailleurs laissé sa vie. Elle a été finalement assassinée, semble-t-il, par des contrebandiers qui voulaient qu'elle ne protège pas ces gorilles dont ils allaient faire leur commerce. Écoutez cette interview d'André Lucas, qui est un zoologue, qui a travaillé avec Diane Fossé pendant plusieurs mois. Il raconte l'épisode que voici le 25 janvier 1989 sur France Inter. Épisode assez significatif, vous allez voir.
Elle a probablement découvert certaines choses. Par exemple, il faut se déplacer à quatre pattes auprès des gorilles parce que l'attitude bipède chez les gorilles est une attitude de provocation. Donc, il faut faire comme eux, on marche à quatre pattes. Il faut se déplacer très lentement, ne pas faire de gestes brusques parce que eux aussi sont des animaux qui sont lents, qui sont calmes, tranquilles et qui font des gestes très lents. Donc, si on s'avance avec le bras rapidement, des choses comme ça, ils ont très peur. Ils peuvent interpréter ça comme un geste de menace. Il faut aussi ne pas les regarder dans les yeux parce qu'ils ont horreur de ça. C'est aussi une attitude de provocation. D'ailleurs, c'est une attitude qu'on retrouve même dans le genre humain, dans l'espèce humaine, parce que si on se met à fixer quelqu'un qu'on n'est pas dans les yeux dans le métro n'importe où, le type va vous dire mais enfin qu'est-ce qu'il me veut celui-là quoi.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Sigourney Weaver, une actrice, bon, quand on lui a proposé le rôle, elle l'a finalement accepté, je crois. Elle a tenu son carnet pendant le tournage du film. Je vous en cite un passage. Oui. Comment suis-je arrivé à cette position peu enviable? Elle vient d'être pas attaquée, mais enfin de frôler Ziz, qui est le chef du groupe, dont elle dit que ses doigts sont la taille de chaque doigt, la taille d'une saucisse. Mm-hmm. Bon, alors elle dit, comment suis-je arrivé à cette position peu enviable? Pourquoi une actrice de cinéma est-elle dans la boue jusqu'au cou, attendant de se faire piétiner par un gorille de montagne de 250 kilos? Quel impresario au monde enverrait sa précieuse cliente à 3000 mètres d'altitude, à la saison des pluies, travailler avec des partenaires velus? Et finalement, finalement, elle dit, j'ai été séduite par ce
complètement, mais c'est normal.
C'est ça qui est tout à fait.
Je ne connais pas de gens qui n'aient vécu au contact des gorilles et qui n'aient pas subi cette séduction fabuleuse. Parce que c'est fabuleux, tout est fabuleux. Les volcans sont fabuleux, les gorilles sont fabuleux, cette vie de famille est extraordinaire. Ce sont en plus des animaux qui sont impressionnants, mais c'est la force tranquille. Alors on a vraiment l'impression de se sentir presque en sécurité, à la limite, lorsque les groupes ont été habitués au contact.
Le film où tourne Sigourney Weaver, Gorille dans la brume, est ultérieure de 3 ans seulement par rapport à l'assassinat de Diane Fossé, Éric Baratet.
Oui, parce que l'assassinat de Diane Fossé a eu un énorme retentissement. Elle a été assassinée justement, comme vous l'avez dit, par des braconniers. Et on l'a vu vraiment comme une injustice, comme une volonté de refuser toute protection des animaux. Et ce témoignage-là que l'on vient d'entendre est très intéressant parce que Diane Fossé, comme Jane Goodall, c'est l'image même finalement que j'essaye modestement de reprendre aussi, c'est-à-dire il faut passer du côté des animaux. Il faut prendre le point de vue animal. Diane Fossé raconte bien dans Gorille dans la brume, qu'on peut conseiller aux auditeurs, comment, pour se rapprocher des gorilles, pour se faire adopter, eh bien elle se met à quatre pattes, elle se gratte, elle se met à hurler comme les gorilles. Elle veut devenir gorille.
On aurait pu d'ailleurs, avant de clore cette émission, Éric Baratet évoquer la manière dont la littérature. Je pense au chien Macaire de Jules Romain dans Les Hommes de bonne volonté, ou les bandes dessinées. Milou, faut faire surgir Milou, ou Joko du même Hergé dans Josette et Joko. Comment ces animaux viennent incarner dans une littérature qui se veut populaire, incarner cette humanisation de la bête, qui est toujours, se situe toujours à la rencontre entre ressemblance et différence.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est que toute cette littérature a des effets concrets. Le Milou, par exemple, présenté par Tintin à partir des années 20-30, c'est un chien de compagnie qui est encore très rare à l'époque. Et en fait, c'est le modèle du chien de compagnie qui va s'imposer en Occident à partir des années 50-60. C'est la même chose pour, par exemple, j'ai trouvé des témoignages d'éthologues qui racontent comment ils ont été influencés enfants par cette littérature, et que cette littérature leur a donné le goût de l'éthologie, donné le goût d'aller voir les animaux pour essayer de, non pas de retrouver leur enfance, pas faire de l'anthropomorphisme, mais de comprendre les animaux.
Milou, nous l'avons tous noté, est un chien chez Tintin, mais dans Josette et Joko, œuvre mineure d'Hergé, mais néanmoins digne d'être considérée, le compagnon est un singe. Sur Joko, nous allons nous séparer, Éric Baratet, non sans que j'ai rappelé le nom du livre que j'évoquais tout à l'heure, Biographies animales, collection Univers historique, au Seuil. Aux éditions du Seuil également, vous avez publié Le Point de vue animal, c'est le même état d'esprit que celui qui a animé notre conversation, se replacer du point de vue de la bête qu'on appelle sauvage, une autre version de l'histoire, une autre version en effet, Seuil 2012. Je voudrais aussi citer le livre de Chris Hersfeld, qui est une historienne des grands singes, Petite histoire des grands singes, paru au Seuil en 2012, et puis elle a, comme vous, Éric Baratet, concentrer l'attention sur un singe en particulier, un orang-outan, Watana, orang-outan à Paris, aux éditions Payot et Rivage, 2012. Vous le connaissez, ce Watana ?
Oui, bien sûr. Elle a été très célèbre parce qu'elle apprenait à faire des nœuds. Elle a appris à faire des nœuds et à les défaire. Ça a été un cas tout à fait qui est très très connu dans le monde scientifique.
Une artiste ?
Une artiste, et puis surtout avec toute la, comment dire, avec toute la, ce que ça suppose en psychisme derrière, évidemment.
On appellerait ça une installation ?
Oui, elle s'amusait à faire ça, ça l'occupait, effectivement, on pourrait le dire comme ça.
Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète, vous le savez, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger, ça n'est pas difficile, cette émission. Samedi prochain, nous reviendrons à un thème plus dramatique et plus immédiat, la Syrie aux origines du malheur, avec l'excellent spécialiste de ce pays, qu'est l'historien et politiste Jean-Pierre Filiu. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Guillaume Cotte et Nathalie Lempereur, réalisée aujourd'hui par Luc-Jean Reynaud, avec Myriam Guillot à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Marthe Laurent, Clotilde Fillot. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.